On va démarrer. Je vais peut-être commencer par vous présenter les intervenantes. On va faire que le nombre l'emporte pour une fois. De la tribune, en commençant par Régis. Peut-être que les camarades compléteront en disant qu'ils bossent. Quand ils interviendront, ça ce sera plus facile. Donc Régis, de Renault Cléon. Véro, du Havre. Donc, hors partant de l'autre côté, Sophie, de Louviers. Et donc, Cassandra, de Rouen. Et puis, donc, moi, je suis Christine, de Rouen aussi. C'est en grande partie les camarades de Haute-Normandie qui sont présents sur la liste. C'est pas tous les camarades de Haute-Normandie qui sont présents sur la liste, parce que certains donc, ne peuvent pas être là ce soir. Bon, et puis Cassandra n'est pas sur la liste payée de cœur, donc voilà. C'est un petit mélange, parce qu'on a choisi aussi d'essayer d'aborder différents aspects, différentes dimensions qui sont importantes dans notre campagne, donc de pouvoir les traiter ce soir à plusieurs fois dans ce meeting. Voilà, donc ce qu'on fera, c'est qu'on va faire des introductions. De toute façon, il y aura le temps de la discussion ensuite. Voilà, donc vous pouvez... vous préparer à dire ce que vous avez envie de dire, et puis sans plus attendre, je vais passer la parole sur ton prénom, je crois que je vais le refaire, à Cassandra. Voilà.
Bon, donc effectivement, Cassandra, donc du NPA de Rouen. Bon, je ne sais pas si en fait ces élections européennes, elles vont beaucoup passionner la jeunesse, tout simplement parce que on est en grande partie bien plus préoccupé par des aspects un peu sociaux, c'est-à-dire la question d'avoir un emploi, une éducation décente. Et en fait, on sait malheureusement trop bien que ce n'est pas les élections qui changent la donne et qui vont changer notre situation. Il faut savoir en fait que partout en Europe, la jeunesse c'est les premières victimes de la crise. Alors que le chômage s'élève à 11% dans l'Union européenne, il est de 25% dans la jeunesse. Et la France ne fait pas exception dans ces chiffres. Hein. On a 10% de chômeurs en France, dont 24% des moins de 25 ans. Ces chiffres sont assez effrayants, mais on sait en plus qu'ils sont assez loin de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de jeunes sans emploi, privés d'emploi, qui ne sont pas comptabilisés dedans. Donc on peut compter les étudiants, les gens qui ne sont pas inscrits dans les bonnes catégories, ou encore ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, tout simplement. Donc pour pallier le chômage, Hollande nous a annoncé, fin 2013, qu'il avait une nouvelle réforme, un nouveau contrat. Donc c'était en fait la recette magique qui était censé d'un seul coup, quasi instantanément, inverser la courbe du chômage. Cette recette magique, il l'a appelée « emploi d'avenir ». En fait, c'est qu'un contrat précaire de plus, c'est-à-dire rien de nouveau. Le but, c'est toujours d'offrir en fait de la main-d'œuvre sous-payée, qu'on pourra jeter quand on n'en aura plus besoin et qu'on l'aura suffisamment exploité. Comme toujours, ce contrat s'accompagne d'une généreuse enveloppe pour l'employeur, hein, puisque c'est 47 à 75% du salaire de l'employé qui est reversé donc à l'employeur. Faute de réussir à inverser la courbe du chômage, ce qu'Hollande en fait et son gouvernement réussissent à faire, c'est continuer à faire augmenter celle de la précarité. Selon un article du Monde paru fin 2013, plus de 86% des contrats qui sont actuellement signés sont des CDD ou des contrats précaires. Et plus loin, donc, l'article continue. Donc là, je vais citer. Pire, cette exploitation des CDD s'est faite d'abord sur les contrats les plus courts. En 10 ans, le nombre de CDD de moins d'un mois a plus que doublé, passant de 1,8 million à 3,7 millions entre le troisième trimestre 2003 et le troisième trimestre 2013. Et ici, je n'ai parlé que de la France. En Grèce, en Espagne, c'est la moitié des jeunes qui sont sans emploi. Alors souvent, pour essayer de fuir la misère, pour essayer de trouver un boulot, c'est souvent l'exil qui est choisi. Des centaines de milliers de jeunes portugais, espagnols, grecs fuient depuis le début de la crise économique leur pays. Et pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, de trouver un emploi, en fait, c'est pas la fin de la galère. En 2005, il y a une jeune catalane qui utilisait l'expression « milleuriste ». Donc, cette expression, en fait, depuis, elle est rentrée en Espagne dans le langage courant. Je vais vous donner un peu la définition qu'elle, elle en donnait. Donc, elle disait que c'est un jeune de 25 à 34 ans, diplômé, bien formé, qui maîtrise des langues étrangères, qui possède des diplômes de deuxième ou troisième cycle, qu'il a complété par des formations, il est dans le monde du travail depuis 3 ou 4 ans. Le problème, c'est qu'il ne gagne pas plus de 1 000 euros et qu'il n'y a pas intérêt à s'en plaindre. Aujourd'hui, avec l'effet de la crise économique, elle est revenue un petit peu sur cette déclaration et donc elle dit « Avant, nous étions milleuristes et nous aspirions à mieux. Maintenant, parvenir à gagner 1 000 euros, c'est la nouvelle ambition de la jeunesse. » Emploi sous-payé et précaire, le constat, c'est le même partout. Donc, jusque-là, j'ai fait un peu, du coup, des constats, un rapide tour d'Europe, en fait, de la situation de la jeunesse. Mais la question aussi, c'est un petit peu, du coup, c'est quoi notre avenir ? Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qu'on nous promet ? Et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que ça se passe mieux, étant donné que la jeunesse est soi-disant une priorité ? En fait, les déclarations, elles vont malheureusement pas dans le bon sens. Il y a peu de temps, le gouvernement parlait de supprimer les APL pour les étudiants non boursiers. Donc ça aurait permis une économie de 800 millions d'euros qu'on aurait pu après remettre dans la poche du patronat, donc à travers le pacte de responsabilité. C'était alléchant, mais en fait, le gouvernement, il a quand même un peu peur d'une mobilisation de la jeunesse. Du coup, en 24 heures, ils ont été obligés de revenir sur leur déclaration. De l'autre côté, on a aussi le président du MEDEF, Gattaz, qui lui aussi a sa solution, en fait, pour pallier à la question du chômage de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que lui nous propose ? Il nous propose un SMIC jeune. En gros, un SMIC au rabais. Alors bon, les conditions de vie sous le SMIC, on sait que c'est pas la panacée, que c'est compliqué. Alors on imagine avec un SMIC au rabais. Il y a un vieux barbu qui s'appelait Marx, qui disait que sous ce système, le chômage est utilisé comme un outil pour diminuer le salaire des travailleurs. Le président du MEDEF aujourd'hui, à travers sa proposition, il nous fait une belle démonstration en fait de la justesse des analyses de Marx. Mais qui a dit en fait que ce serait si simple d'attaquer les jeunes et les travailleurs ? La bourgeoisie, elle ne le sait que trop bien. Les jeunes donc sont à plusieurs reprises sortis dans la rue aux côtés des travailleurs depuis le début de la crise. 6 Grecs de moins de 25 ans sur 10 ont pris part aux manifestations de l'été 2011. Les lycéens français ont totalement remis en cause les politiques d'immigration en soutenant en fait les Leonarda et Katchik. La suppression de l'IVG en Espagne a fait se mobiliser des dizaines de milliers de jeunes à travers toute l'Europe. Alors non, la crise n'est pas finie et oui, nous continuons de la payer. Nos conditions de vie se sont peu à peu dégradées et on voit pas du tout en fait le bout du chemin du tunnel. Qui croit encore le gouvernement quand il jure que la crise économique s'est bientôt terminée ? Qui les croit encore quand il nous demande de faire un petit effort de plus et puis qu'après ça ira mieux ? Pour nous, pour que l'avenir sorte de l'obscurité dans laquelle en fait les capitalistes l'ont plongé, il n'y a qu'une seule solution. C'est comme le dit en fait nos affiches, c'est reprendre nos affaires en main. À ceux qui pensent que c'est trop compliqué, je répondrai que nous n'avons pas le choix. Et ceux qui nous répondent que ce n'est pas possible, je leur parlerai de la Tunisie, de l'Égypte ou encore de l'Ukraine. Ils ont fait la démonstration qu'aucun gouvernement, aussi corrompu, aussi brutal soit-il, ne peut résister quand les jeunes et les travailleurs décident de les mettre dehors, quand nous décidons de nous unir. Ce qui n'était à la base qu'une mobilisation étudiante à Kiev a remis en cause en fait tout un gouvernement et ils ont réussi à faire virer Yanukovych. Alors la question après, c'est comment faire en sorte que ce nouvel, en fait, que ce qu'on construit ne soit pas encore repris en main par un nouvel opportuniste corrompu, et qu'en fait un tyran ne succède pas à un autre tyran. Le problème, c'est que nous avons toujours été habitués à ce que d'autres personnes décident à notre place. Eh bien ça, il faut que ça change. Organisons-nous, discutons ensemble de quelle société nous voulons construire, quel système pour répondre en fait enfin à nos besoins. Qu'ils s'appellent Hollande, Merkel, Rajoy ou Papoulis, ce qu'ils veulent tous, c'est nous faire payer la crise pour que se maintiennent les profits d'une poignée de banquiers, d'une poignée d'actionnaires, d'une poignée de patrons. Ils répondent tous aux ordres du FMI et de la BCE quand ils leur demandent de supprimer nos acquis sociaux ou de diminuer nos salaires. Ce que le NPA propose, c'est de changer de société, c'est de reprendre nos affaires en main. Et comme le dit le slogan, pas d'avenir sans révolution.
Parler de ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous avez dû, je vais vous donner quelques chiffres, c'est un peu embêtant les chiffres, mais c'est nécessaire. Et vous avez dû entendre dire qu'ils doivent faire 50 milliards d'économies dans le social. Donc ces 50 milliards d'économies, il y en a 18 qui vont être faits sur les dépenses de l'État, 11 sur la protection sociale, 10 dans l'assurance maladie et 11 dans les collectivités territoriales. Le déficit des hôpitaux s'était aggravé en 2013 de 500 millions d'euros. Alors que 3 milliards ont été économisés par la Fédération hospitalière de France, que j'appellerai la FHF, hein. Soyez pas perdus si vous me demandez de dire FHF, c'est la Fédération hospitalière de France. Alors que 3 milliards ont été économisés par la FHF entre 2005 et 2012, elle veut réaliser 7 milliards d'euros d'économies dans les 3 années à venir, jusqu'en 2017. Pour ça, elle a 8 propositions. Diminuer la masse salariale par le gel des salaires, qui pour l'instant est fixé, donc se gèle jusqu'à 2017. Le gel des avancements, des revalorisations catégorielles. Diminuer jusqu'à leur surpression les RTT, diminuer les expertises CHSCT, parce que ça met en évidence la souffrance au travail, réduire l'intérim médical, imposer des glissements de tâches vers du personnel moins qualifié, on va faire par l'infirmière ce qui devrait être fait par un médecin, par l'aide-soignant ce qui devrait être fait par l'infirmière et par la dame qui fait le ménage ce qui devrait être fait par l'aide-soignant. Réduire drastiquement de 50% le personnel des ARS et des ministères, remettre en cause et renier le statut des personnels médicaux et non médicaux, externaliser les services logistiques. Une partie de toutes ces mesures est déjà bien mise en place dans tous les hôpitaux où nous travaillons et nous pouvons voir ça se dérouler déjà. Mais la FHF est débordée sur sa droite par le MEDEF, qui propose quant à lui la suppression de 200 hôpitaux, la fusion de certains CHU, la réduction des médecins généralistes. Par contre, nous avons une nouvelle agence, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements, qui affirme que sur les 900 000 emplois hospitaliers, 400 000 sont appelés à disparaître. Donc on le voit, c'est la grande misère des hôpitaux, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas du tout de sous pour nous. Mais par contre, il y a quand même des endroits où des espèces sonnantes et trébuchantes, il y en a. Il y a un projet d'OPA sur le premier groupe d'hospitalisation privée en France. Cela devrait donner naissance à un nouveau poids lourd des cliniques privées. La Générale de Santé, numéro 1 français du secteur, est en passe d'être achetée pour 945 millions d'euros par l'Australien Ramsay Healthcare. L'opération se ferait au prix de 16,75 euros par action, soit 8% de mieux que le cours de la bourse à la clôture du 9 mai. La holding de la famille Gresty, qui détient 83,4% du capital du groupe français, a annoncé avant bourse lundi 12 mai avoir accordé une exclusivité jusqu'au 6 juin à Ramsay et Crédit Agricole Assurance qui ont déposé une offre non engageante. L'Australien Ramsay s'est déjà renforcé en France en 2013 en rachetant à Général de Santé son pôle d'hospitalisation psychiatrique. Il compte 40 établissements dans l'Hexagone. La Générale de Santé, quant à elle, pèse 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 75 établissements. Donc ça ferait à ce monsieur-là, Ramsay, cet Australien, une centaine d'établissements en France qui feraient tourner. Voilà. Donc, la santé publique est mal en point. Mais face à cela, il y a quand même un petit espoir. En France, tout du moins, et aussi en Belgique, en Espagne, on a les syndicats travaillent ensemble parce que c'est ce travail de destruction de la santé publique qui se fait partout. Et en France, il y a eu récemment, aujourd'hui, il y avait un rassemblement à Paris entre la CGT et Sud Santé. Et il y avait déjà eu une première assemblée générale au mois d'avril. Donc, ce sont des assemblées générales qui essayent de mettre en place une contre-offensive à cette liquidation du service public de santé. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop démoraliser, comme dit la copine, seule la révolution.
Voilà, c'était donc Véronique Bréant. En fait, on désannonce, c'est pareil, c'est très chic de désannoncer, donc on dit après qui était la personne. Donc Véronique Bréant, qui est donc 19e sur notre liste, et comme vous l'avez compris, qui vient de la santé, puisqu'elle était aide-soignante au Havre. Donc maintenant, on remonte complètement dans la liste, et je vais donc passer la parole à Régis, donc Jean-Jacques en vrai, qui est donc Régis Toye, et qui lui vient d'automobile, et voilà. Et de Péon
accessoirement. Dans le cadre de cette très courte campagne pour l'élection des députés européens, tout le monde a parfaitement compris une chose, c'est qu'il est impossible de déconnecter le débat sur la politique qui se mène et qui va se poursuivre dans le cadre de la construction capitaliste de l'Europe, de la politique qui se mène dans le cadre des États nationaux et, pour ce qui nous concerne en France, de la politique qui est menée par la gauche du gouvernement. Et il faut vraiment tout le culot du Parti Socialiste pour oser mener campagne sur le thème contre l'austérité en Europe, au moment même où, sous la houlette de Valls et de Hollande, un gouvernement de gauche s'apprête, d'une part, à organiser le plus gros transfert de richesses jamais réalisé dans ce pays, de notre poche vers les entreprises, avec la mise en œuvre du pacte de responsabilité, et d'autre part, à détruire la sécurité sociale, en asséchant son financement par les cotisations sociales pour réduire ce que les patrons ont pris l'habitude d'appeler le coût du travail, en fait, d'abaisser le prix de la force de travail. Alors oui, dans ce contexte, le NPA a fait le choix de présenter des listes, pas seulement pour dénoncer l'Europe que nous ont construit l'UMP et le PS, celle de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne, mais pour faire entendre une autre voix à l'occasion de ces élections. Celle de la défense d'un programme qui réponde à l'urgence pour les travailleurs et les classes populaires. Un programme qui se donne clairement l'objectif d'aller reprendre dans la poche des riches les cadeaux des gouvernements successifs UMP et PS qui se sont succédés. Un programme qui met notamment en avant, contre tous les licenciements et les suppressions de postes, l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes, la mise en œuvre d'une politique de partage du travail par la réduction massive du temps de travail, sans flexibilité, sans annualisation du temps de travail comme on l'a connu dans les années 90, la conversion de tous les emplois précaires en emplois statutaires ou en CDI. Contre la baisse du pouvoir d'achat, Une campagne qui se mène pour l'augmentation immédiate de tous les salaires, retraites et minima sociaux de 300 euros net par mois, en imposant qu'aucun salaire ne puisse être inférieur à 1700 euros net. Mais aussi l'ouverture des livres de compte pour contrôler ce que deviennent les richesses produites par les travailleurs quand elles restent entre les mains des capitalistes. Alors tout le monde aura compris que ce programme, ce n'est pas un programme de promesses électorales où l'on raconte aux électeurs le temps d'une campagne « Votez pour nous, élisez-nous, on s'occupe du reste ». C'est un programme de lutte, un programme qui ne pourra devenir effectif qu'à l'issue d'une confrontation majeure et directe avec ce gouvernement et un patronat qui ne peuvent comprendre que le langage du rapport de force. Un programme qui ne pourra être imposé que par un mouvement de grève puissant qui se donne réellement les moyens de paralyser toute activité économique de ce pays et de faire enfin peur aux possédants, comme on a été sur le point de réaliser en 2010 dans la bagarre contre la réforme des retraites. Une confrontation qui se prépare dès aujourd'hui, en affrontant pied à pied les attaques patronales et la mise en œuvre de la politique de ce gouvernement, un gouvernement de gauche, 100% au service du patronat. De ce point de vue, on ne part pas de rien. Depuis des mois, des luttes partielles éclatent, parfois longues, parfois dures, parfois avec un écho national, lorsqu'elles touchent un secteur particulier, le plus souvent des luttes qui se mènent le dos au mur sur les questions d'emploi à l'occasion d'annonces de fermeture ou plus simplement de restructuration, simplement pour répondre aux attentes du monde de la finance. Ou encore une lutte qui se mène actuellement dans les Hauts-de-Seine, au PTT, une lutte qui se mène depuis 114 jours à la Poste contre la précarité et là encore contre les suppressions d'emplois, mais avec un enjeu qui dépasse largement les bureaux de poste du 92 ou même l'entreprise La Poste. Le plus souvent, ces luttes restent isolées, dispersées, ne parviennent pas à se coordonner, alors que pour gagner, elles posent toute la nécessité de construire un rapport de force national, la nécessité d'un tous ensemble que refusent toutes les confédérations syndicales. Aujourd'hui, l'urgence sociale, cela va bien évidemment être d'organiser la résistance en se fixant un objectif central, avoir la peau du pacte de responsabilité du tandem Valls-Hollande. Mais pour cela, tout faire pour reconstruire un rapport de force dans la rue et par la grève pour aller vers un mouvement de grève générale qui est la seule réponse crédible si on se fixe réellement, vraiment, l'objectif de gagner compte tenu de l'enjeu que représente cette politique pour le gouvernement actuel. Il va falloir construire ce mouvement malgré l'obstacle à la mobilisation que constitue l'acceptation par toutes les confédérations syndicales du dialogue social mis en place par Hollande pour faire entériner par les confédérations syndicales les reculs sociaux qu'il estime indispensables pour le capitalisme, pour restaurer la compétitivité des entreprises implantées en France. Une politique qui a réussi aujourd'hui à faire de la CFDT sa principale courroie de transmission dans les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que reconstruire ce rapport de force, c'est aussi un enjeu pour parvenir à tarir la désespérance sociale qui fait le lit du Front National et qui alimente le vote en sa faveur. Pour conclure rapidement, je vais revenir simplement un petit peu sur l'imbécilité des solutions prônées par le Front National dans un secteur que je connais bien, à savoir le secteur de l'automobile, lorsqu'ils vantent, lorsqu'ils réclament le repli dans l'Hexagone et présentent cette solution comme la solution. À l'heure où les deux principaux constructeurs français, Renault et PSA, soit c'est déjà mondialisé pour ce qui concerne Renault, dans le cadre de son alliance avec le constructeur japonais Nissan, soit s'inscrit dans ce processus de mondialisation pour ce qui concerne le constructeur PSA, dans le cadre du partenariat qu'il vient de signer avec le deuxième constructeur chinois, à savoir Dongfeng. Oui, aujourd'hui, les attaques auxquelles sont confrontés les travailleurs d'automobile prennent réellement appui sur cette mondialisation du secteur automobile, mais parce qu'elle permet une mise en concurrence de tous les sites, de chaque constructeur, pour subordonner toute affectation de fabrication nouvelle, qu'il s'agisse d'un moteur, qu'il s'agisse d'une boîte de vitesse, qu'il s'agisse d'une fabrication nouvelle, ou bien de la renonciation à la fermeture d'une ou plusieurs usines, donc subordonner tout cela à la négociation d'accords d'entreprise entérinant des régressions sociales, des régressions qui ne connaissent plus aucune limite, puisque dans chaque pays, les organisations syndicales acceptent cette mise en concurrence pour justifier la négociation d'accords acceptant des reculs au nom du moindre mal. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du secteur automobile, le repli national, celui que nous propose le Front National, c'est forcément l'acceptation de pactiser avec son patron, mais aux conditions fixées par son patron, comme cela s'est déjà fait chez Renault avec l'accord de compétitivité signé en mars dernier. Un accord de compétitivité signé par tous les syndicats, à l'exclusion de la CGT, dans lequel les syndicats pactisent avec le patron pour dire qu'ils sont d'accord pour supprimer 8250 emplois, qu'ils sont d'accord pour accepter la baisse généralisée des salaires, qu'ils sont d'accord pour accepter l'augmentation du travail sans augmentation des salaires. Alors, la seule solution qui préserve réellement les intérêts de tous les travailleurs, c'est de refuser de céder à ces chantages en construisant la mobilisation et en cherchant à construire des convergences avec les travailleurs avec lesquels notre patron commun nous met en concurrence. Et cela, bien évidemment, au-delà des frontières nationales. La solution, ce n'est pas le repli national proposé par le candidat du Front National, les candidats du Front National, ce n'est pas le repli nationaliste à l'intérieur des frontières. Aujourd'hui, la solution, c'est chercher des convergences pour mener des luttes à l'extérieur des frontières avec les travailleurs des autres entreprises, des frontières qui n'existent plus vraiment pour les capitalistes.
La parole à Sophie Ozanne, donc qui est 13e sur notre liste, qui est donc enseignante en maternelle et qui vient de Louviers.
Donc moi je vais aborder le volet écologique de la crise que nous connaissons aujourd'hui et essayer de vous expliquer les solutions que le NPA propose dans son programme. Parce que le NPA a cette originalité de lier les luttes sociales, les luttes anticapitalistes et les luttes écologiques. Alors en matière d'environnement, on le sait tous, on l'a tous compris, les clignotants sont au rouge depuis un moment. Je ne vais pas faire la liste, mais on a tous en tête l'augmentation alarmante du niveau de pollution, que ce soit de l'air, des mers, du sol, etc., de l'eau potable, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, le remontée du niveau des océans, qui menace certains pays, l'épuisement des sols, la destruction de la forêt tropicale, et je pourrais continuer comme ça. Je pourrais parler aussi, par exemple, des déchets, en particulier des déchets nucléaires dont on ne sait que faire. Je pourrais parler des incidents qui se multiplient dans les centrales et qui font peser la possibilité d'un nouveau Tchernobyl ou d'un nouveau Fukushima, on choisit. Bref, j'arrête là la liste, mais on sait très bien qu'elle n'est pas terminée tant la dégradation de l'environnement est importante. Alors il est évident que toute activité humaine a un impact sur la biosphère. Là, on est d'accord là-dessus. Mais on voit bien que tous les fléaux que l'on connaît aujourd'hui sont directement liés au mode de production capitaliste. Et c'est en ça que nous, on fait le lien entre les luttes sociales, les luttes anticapitalistes et les luttes écologistes. On voit bien que tous ces fléaux sont liés à la course folle au profit. On voit bien que c'est lié à la logique productiviste du système. Le capitalisme porte en lui les saccages de l'environnement, mais de la même manière qu'il porte en lui le chômage de masse, les crises économiques, les crises financières. Autrement dit, une fois qu'on a dit ça, on peut prendre le volet positif des choses et de se dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut renverser les choses. Il suffit de sortir du capitalisme. Alors évidemment, je dis ça, ça paraît simple. Et on va voir comment, à travers notre programme, nous, on s'attache, en tout cas, à y parvenir. Ce qu'on dit dans nos propagandes, c'est qu'un autre monde est possible. Si nous prenons nos affaires en main, et si nous retirons aux capitalistes le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir de destruction et de décider pour nous, pour nos vies. C'est cette parole-là que nous portons dans ces élections, comme dans d'autres, et aussi dans toutes les luttes que nous menons, et dans tous les lieux militants où on retrouve des militants du NPA. Alors nous ne sommes pas seuls à se revendiquer de cette écologie radicale, qui tranche effectivement avec l'écologie, défendue par les écologistes institutionnels, ceux qui pensent que c'est en passant des accords avec le Parti Socialiste, voire avec la droite, qu'ils pourront y arriver. On sait très bien que ça ne sert à rien du tout et qu'on n'obtient rien de cette façon-là. Enfin, si eux, ils obtiennent des postes. C'est sûr que Dominique Voynet, sénatrice, ça change tout. Alors maintenant, je vais aborder deux points. Il y aurait eu beaucoup de points à choisir. Nous avons choisi deux. La question de l'énergie et la question de la politique agricole. Alors, pour répondre à l'urgence climatique, écologique et sociale, le NPA propose un plan global de rupture et qui prévoit concrètement plusieurs choses. Il faut réduire, mais de façon drastique, notre dépendance aux énergies fossiles, tout simplement parce que ça contribue au réchauffement climatique qui menace l'humanité. Il faut sortir du nucléaire et au NPA, nous avons chiffré, argumenté un plan de sortie en moins de 10 ans. Et surtout, quand on pense qu'on peut fabriquer de l'électricité autrement, il faut interdire l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Ils ne peuvent pas être la solution, en aucun cas. Cette solution que les industriels, relayés par les politiques, ce qu'ils essayent de nous vendre à longueur de médias, ça ne peut pas être la solution tout simplement parce qu'ils sont producteurs de gaz à effet de serre. Il faut développer les énergies renouvelables. Pas seulement parce que c'est un moyen de produire de l'électricité, de l'énergie plus propre, moins polluante, mais aussi parce que c'est un formidable gisement d'emploi. Il faut réduire massivement les gaz à effet de serre. Alors ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une politique de réduction tout aussi massive du transport des marchandises. Dans notre programme, nous disons qu'il faut relocaliser les productions. Si on obtient ça, on n'aura plus besoin de faire trois fois le tour de la terre à un yaourt, par exemple, avant qu'il arrive dans notre frigo. Il faut également se poser la question du quoi produire, pas seulement du comment produire, mais du quoi produire. De quoi avons-nous réellement besoin? Parce qu'à coup de pub, on nous vend, on nous crée des besoins, on nous crée... Bon. Donc se poser, que les citoyens se posent la question de quoi on a réellement besoin. Et on s'apercevra qu'on peut réduire effectivement le volume des marchandises à transporter. Ça passe aussi par une politique volontariste en matière de transport en commun. Il faut plus de transport en commun, plus de cadencement, des transports de qualité, des transports publics et des transports gratuits. Il est prouvé aujourd'hui par le retour, l'instauration de la gratuité dans certaines municipalités, dans certaines communautés d'agglos, il est prouvé que la gratuité dope l'utilisation des transports en commun et diminue d'autant l'utilisation de la voiture individuelle. L'exemple à Rouen, vous savez bien, il y a un collectif qui se bat pour la gratuité des transports en commun et on peut avoir des renseignements aussi de ce côté-là. Alors tout ça, ça ne pourra pas se faire sans la création de grands services publics, de l'énergie, des transports et de la biodiversité. Alors ça suppose une condition. Et c'est là que réside notre différence avec bon nombre de partis politiques, et en particulier avec Europe Écologie Les Verts. Nous, pour nous, la condition pour réaliser tout ça, c'est l'expropriation des grands groupes capitalistes qui se sont accaparés ces secteurs. Il faut sortir l'énergie et les transports du secteur marchand. Il n'y a pas d'autre solution que de les exproprier. Donc, création de grands services publics qui protègent les besoins vitaux. C'est-à-dire, une fois qu'on a reconnu que se loger, se soigner, le transport, l'énergie, ça correspond à des besoins vitaux dont on peut se passer, à partir de là, il faut décréter que ces secteurs-là de l'économie ne peuvent être la proie de capitalistes avides, toujours avides de plus en plus de profits, et qui doivent être sortis de la sphère marchande. C'est ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, donc l'expropriation des capitalistes. Il faut également que ces grands services publics soient gérés démocratiquement, c'est-à-dire qu'à tous les échelons de la production, de la consommation, la population ait les moyens de décider, de discuter et de faire des propositions. En ce qui concerne l'agriculture, nous pensons qu'elle a un rôle majeur à jouer dans le projet de société que nous défendons. Et nous ne voulons certainement pas de l'agriculture que l'Europe a contribué à mettre en place depuis des années. Nous voulons en finir avec une agriculture et un élevage productiviste qui maltraitent les animaux en les concentrant dans des espaces confinés, bien souvent hors sol, en les gavant d'antibiotiques, qui tuent la vie des sols en les gorgeant de pesticides, qui exterminent les abeilles, qui polluent l'eau, qui détruisent les emplois, la santé des travailleurs et des travailleuses agricoles, et qui, au bout du compte, ne produit qu'une nourriture de piètre qualité. Or, l'agriculture, une de ses premières fonctions, c'est quand même de nourrir la population. Alors la nouvelle PAC votée en 2013 et qui s'applique là à partir de 2014 jusqu'en 2020 ne modifie les choses qu'en surface, parce qu'on n'arrête pas de nous enfumer avec ça. La nouvelle PAC, vous allez voir, c'est formidable, ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est fait avant. Ça acte la dérégulation des marchés, ça privilégie toujours les grandes exploitations, ça ne met pas un terme à l'aberration des agrocarburants, et ça n'interdit pas les OGM. Alors au NPA, nous défendons une politique agricole commune qui encourage l'agroécologie paysanne sans pesticides ni OGM, qui produit une nourriture de qualité et distribuée dans des circuits courts. Avec le modèle agricole que nous défendons, il y aura une baisse significative du chômage, car dans ce secteur-là, le secteur agricole, il y a de nombreux emplois à créer. Avec le modèle agricole que nous défendons, il y aura une diminution immédiate des gaz à effet de serre. Parce que dans l'agriculture, par exemple, il faut savoir qu'il y a le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qui est largement utilisé, c'est 300 fois plus polluant que le CO2. On n'arrête pas d'entendre parler du CO2, mais il faut savoir que dans l'agriculture, il y a des produits qui sont utilisés qui sont bien plus dévastateurs. Les aides de la PAC ne doivent plus aller ni aux grands propriétaires terriens, ni à l'industrie agroalimentaire. La PAC, c'est le premier poste budgétaire de l'Europe et notre argent ne doit pas aller à des millionnaires. Donc, nous sommes favorables à l'agriculture biologique, mais nous voulons y intégrer des critères supplémentaires, des critères sociaux et des critères de localisation. Parce qu'on considère qu'un produit bio qui arrive, qui a fait des milliers de kilomètres, produit par des travailleurs en quasi-esclavage, c'est pas un produit bio. Donc, il y a des critères à rajouter. Nous sommes totalement opposés au TAFTA, le fameux traité transatlantique. Je laisse Christine développer davantage là-dessus, mais il faut savoir une chose, c'est que si le TAFTA s'applique, et il va s'appliquer s'il n'y a pas de lutte pour y résister, ce sera la porte ouverte au poulet à l'eau de javel, au bœuf aux hormones, aux élevages industriels. Alors, contrairement à ce qui est répété à l'envi sur les médias, je terminerai là-dessus, eh bien, le NPA n'est pas anti-Europe, bien sûr que non. Nous, on se bat pour une autre Europe. Une Europe au service des gens. Une Europe qui met les Européens et les Européennes au cœur du projet de société et qui ne met pas le capital à cet endroit-là. Parce que nous sommes anticapitalistes et écologistes, nous voulons bâtir une autre Europe. Nous voulons une Europe qui va concilier la satisfaction des besoins avec l'égalité sociale et la sauvegarde de la nature. C'est un tout autre type de société que nous défendons. C'est une utopie, mais qu'il est urgent à réaliser. Sinon, c'est la barbarie qui nous guette. Alors, cette parole-là, ces revendications-là, c'est ce que nous portons au quotidien dans nos luttes, là où nous nous battons, dans nos milieux, dans nos syndicats, dans nos quartiers, dans les associations. Et c'est aussi une parole que nous portons dans les élections et ici aux européennes. Donc, aux européennes, on fait voter pour la liste NPA menée par Christine Toupin.
On a dit pas mal de choses sur la situation sociale, sur le chômage, sur la dégradation des conditions de vie et sur le fait que la seule réponse qui est apportée en France comme en Europe, c'est de l'austérité, toujours plus d'austérité. Il faut rajouter à ça ce qui est la situation politique, une situation politique de crise, avec un gouvernement qui a battu tous les records d'impopularité et de vitesse à acquérir cette impopularité. Il faut rajouter que c'est un gouvernement en crise, mais c'est aussi un système en crise. Et c'est ça qui explique des taux d'abstention, là encore, assez exceptionnels. Bon, mais pourquoi il y a ces taux d'abstention ? C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens pour lesquels il est évident que ceux qui prétendent diriger en notre nom, que ceux qui prétendent prendre les décisions en notre nom, en fait, ne nous représentent absolument plus. Donc ce gouvernement, il est rejeté, il le mérite, c'est pas ça qui va nous faire verser des larmes, c'est bien fait pour lui. Bon, le problème, c'est que ceux qui aujourd'hui profitent de ce rejet du gouvernement, c'est en grande partie l'extrême droite, et c'est un vrai danger. Ça a été un danger au moment des municipales avec 14 villes prises par le Front National, avec 1200 conseillers municipaux. On voit qu'ils sont toujours en embuscade avec des réponses qui peuvent varier, mais qui sont toujours des réponses à la fois autoritaires et des réponses nationalistes. Et puis là, avec les européennes, ils ont bien l'intention de toucher le gros lot, en gros autour d'une idée simple, c'est la faute à l'Europe, sortant de l'euro et tout ira bien. Ça vaut le coup de regarder les professions de foi, celle de Marine Le Pen dans notre région, c'est un monument de bêtises nationalistes, c'est l'Union européenne détruit, la nation protège. Voilà. Ceci dit, c'est pas parce que c'est bête que ça ne va pas avoir un certain succès. Donc on voit bien l'urgence de la situation. Nous, dans cette situation-là, on pense qu'il y a deux choses à faire. Une chose qui est de construire une opposition de gauche à ce gouvernement, de façon à ce que l'opposition à ce gouvernement, elle vienne pas de la droite, ça suffit. On les a assez vus dans la rue, sur tous les terrains les plus réactionnaires. Donc cette opposition de gauche au gouvernement, on a commencé à la construire ensemble avec la manifestation du 12 avril et on est content d'avoir pris cette initiative, d'avoir réussi à en faire quelque chose d'unitaire au plan politique, c'est-à-dire d'unitaire avec les forces qui s'opposent à gauche à la politique de gouvernement, mais aussi quelque chose qui lie des forces politiques, mais aussi des forces du mouvement social, et que ce moment-là, il a pu aussi être un outil pour celles et ceux qui, dans le mouvement syndical, en ont assez de rester l'arme au pied. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire, mais on ne peut pas faire l'économie non plus d'apporter des réponses anticapitalistes à l'échelle européenne, puisque la question nous est posée. Donc je ne vais pas faire longtemps sur la France, puisque les camarades en ont largement parlé. On pourrait résumer les choses en disant, en gros, toujours plus à droite pour qualifier la politique du gouvernement. On pourrait dire aussi ça va mal et ça dure, puisque le gouvernement était impopulaire. Hollande nous a sorti le 1er janvier son pacte de responsabilité. Quelques semaines après, ils se sont pris une claque au municipal, alors ils allaient chercher Valls. Et alors maintenant, on se retrouve avec le pacte de responsabilité et Valls. Ça commence à ressembler à la double peine, quand même. Bon. Voilà. Donc ça, on voit bien, et on sait bien que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, et qu'il n'y a bien que Hollande pour envisager que peut-être qu'il va y avoir un retournement, un truc, que ça va commencer à aller moins mal, que peut-être un jour ça ira mieux, mais qu'il faut continuer dans la même voie. Bon. Et l'Europe dans tout ça, comme aurait dit un célèbre animateur de radio. Alors, il y a ceux d'un côté qui nous disent, bon, ben, tout est la faute à l'Europe, l'Europe est responsable de tous les maux. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui nous disent, heureusement qu'on a l'Europe, parce que l'Europe, ça protège contre la finance, c'est un outil pour les droits sociaux, voire même, c'est un outil pour la transition écologique. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Notre point de vue sur l'Union européenne telle qu'elle est construite, il est sans ambiguïté. On pourrait dire, pour aller vite, qu'on a envie de lui coller un triple A pour qualifier sa politique, c'est-à-dire une politique antisociale, une politique austéritaire et une politique antidémocratique. Et nous, on pense que cette Union européenne telle qu'elle a été construite, elle n'est pas réformable, parce que précisément, elle a été construite pour ce triple A, pour mener cette politique-là. Elle a été construite comme ça, traité à traité. C'est-à-dire, quand elle a commencé, elle s'est construite comme un marché. À une époque, en 57, avec le traité de Rome, où on pensait c'était déjà une bêtise, hein. Et que le marché réglerait tout et qu'il suffisait d'avoir un grand marché unique et que tout s'alignerait naturellement dans le meilleur des mondes. Mais l'accélération de la construction européenne, de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle correspond exactement avec le tournant du capitalisme et de la crise du capitalisme à l'échelle mondiale qui a abouti comme réponse pour les capitalistes à ce qu'on appelle cette fameuse mondialisation. Avec une mise en concurrence des travailleurs entre eux, avec une financiarisation extraordinaire du capitalisme et avec un pouvoir extraordinaire donné à cette finance. Et ça n'a fait que s'aggraver dans ce sens-là. Alors ça a été évidemment l'acte unique en 86 avec la liberté totale de circulation des capitaux, puis ça a été Maastricht avec l'euro, et là on voit bien comment cette Union européenne elle a été construite pour imposer les politiques d'austérité avec les fameux critères de Maastricht, et puis ensuite on a rajouté des mécanismes encore plus durs, encore plus contraignants, avec le fameux TSCG, vous savez, ce truc dont Hollande, avant d'être élu, disait c'est une horreur, c'est un pacte d'austérité, moi vivant, jamais. Il ne l'a peut-être pas dit comme ça, là j'en rajoute. Mais en tout cas, on va renégocier ça, vous allez voir ce que vous allez voir, et ça ne va pas se passer comme ça. Et bien finalement, on sait ce qu'il en est advenu, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Tout ça pour arriver à quelque chose qui est extraordinaire, qui est dit directement par la Commission européenne. Alors, Commission européenne, c'est pas le genre gauchiste, anticapitaliste, toujours à trouver que ça va mal, etc., etc. C'est plutôt pas le genre de la maison. Mais eux, dans le rapport de 2013, ils écrivent « Après 5 années de crise économique et le retour de la récession en 2012, le chômage a atteint des sommets qu'il n'avait plus connus depuis 20 ans. Le revenu des ménages est en baisse et le risque de pauvreté ou d'exclusion augmente, en particulier dans les États du sud de l'Europe. » Comme bilan. Donc ça ne peut que nous conforter, nous, dans ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il est indispensable de désobéir à ces traités et de rompre avec les institutions de l'Union européenne. Mais quand on dit ça, il faut immédiatement regarder derrière comment les choses se passent. Je vous laisse y réfléchir, le temps d'en voir un coup. Puisque, évidemment, les gouvernements des États de l'Union européenne sont des acteurs dans ces affaires-là. C'est même les principaux acteurs. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de Hollande, mais je voudrais prendre 2 exemples sur lesquels c'est intéressant d'aller voir exactement ce qu'a fait et ce que fait, y compris actuellement, le gouvernement français. Ces 2 exemples, c'est le TAFTA dont a commencé à parler Sophie tout à l'heure, donc cet accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui vise à créer une sorte de grand marché transatlantique qui représenterait donc un peu le summum du rêve des capitalistes, c'est-à-dire une grande zone de libre-échange avec la suppression des barrières douanières, mais surtout avec la possibilité de remise en cause de tout ce qui est un tout petit peu protecteur, que ce soit en termes sanitaires, que ce soit en termes environnementaux ou que ce soit en termes social. Et puis la 3e chose qu'il y a dans ce pacte, alors c'est difficile d'en parler parce qu'évidemment c'est des négociations qui en plus rajoutent à leur charme, sont des négociations secrètes. Bon, mais il y a la possibilité donc pour n'importe quel, alors là il faut faire un petit exercice de langage. Eux ils disent investisseur. Quand vous voyez investisseur, vous sous-titrez multinationale. Donc n'importe quel investisseur peut se retourner contre un État s'il juge que finalement son business ne va pas lui rapporter autant que ce qu'il espérait. Bon, et donc une norme sociale, environnementale ou sanitaire, ça risque de provoquer ça. Et donc il y a la possibilité, autre dimension intéressante, d'avoir recours pour cet investisseur, comprendre multinational, de porter le pied devant un truc là, qui ne devrait pas exister non plus parce que les 2 termes côte à côte c'est extrêmement bizarre, une instance de justice privée, d'arbitrage, ils appellent ça. Voilà, donc c'est cet enjeu-là qu'on a parce que évidemment c'est quelque chose d'absolument colossal à l'échelle de la planète, d'autant que le même type d'accords sont en train de se discuter aussi entre les États-Unis et le Canada, puis entre les États-Unis et de l'autre côté les États du Pacifique, et qu'on sait déjà un peu comment ça marche vu qu'il y a ce type d'accord-là entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, Et dans l'histoire, à tous les coups, à la fin, c'est les travailleurs, les paysans, les plus pauvres et l'environnement qui perdent. Et des exemples sur ce type de fonctionnement, on en a aussi quelques-uns. Il y a donc une multinationale américaine qui se retourne contre le Québec à cause d'un moratoire sur la fracturation hydraulique. Ben oui, comptez faire de la thune avec des gaz bitumineux, des gaz de schiste. Enfin bon, c'est un peu différent au Québec. Ah, ben on casse la tirelire, c'est bête. Mais les méchants ne sont pas tous étrangers, contrairement à ce que disent certains, puisque Veolia fait exactement la même chose contre le gouvernement égyptien, contre la revalorisation du salaire minimum. Donc voilà, donc ce TAFTA, c'est les pleins pouvoirs aux multinationales pour exploiter, pour polluer, pour empoisonner. Mais qu'a dit Hollande au sujet de ce TAFTA ? Le Hollande qui nous dit qu'il va mettre au pas la finance et qu'on va voir ce qu'on va voir. Mais il dit il faut aller vite. Ça, c'est une bonne chose, le TAFTA. Donc, il faut aller vite. Donc là, ce n'est pas juste les méchants étrangers, sans patrie, etc., qui nous attaquent. C'est bel et bien directement ce gouvernement qui est acteur de ces mises en place de déréglementation et de tout le pouvoir aux multinationales. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est la taxation des transactions financières. Alors, ça revient régulièrement. Il y avait un projet qui était présenté en 2011 par la Commission européenne pour une taxe sur l'ensemble des États membres et sur l'ensemble des marchés financiers. Cette taxe, il était évalué qu'elle allait rapporter 57 milliards d'euros par an. Ça a discuté, et on arrive à un truc, je ne sais pas moi si on peut appeler ça une taxation des transactions financières, un truc qui va se mettre en place au 1er janvier 2016, qui ne rapportera vraisemblablement que 4,6 milliards d'euros. Donc si vous êtes comme moi, vous avez du mal à calculer avec les milliards parce que ce n'est pas notre monde, c'est quand même moins de 10 fois moins. Hein, voilà. Bon, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est ce qu'a fait le gouvernement français, et en particulier Moscovici dans ces discussions-là, puisque le gouvernement français, lui, il est intervenu par la voix de Moscovici directement pour exclure des produits concernés par cette taxation, les produits dérivés, c'est-à-dire cette création absolument magique du monde financier pour faire de l'argent avec de l'argent, mais y compris en assurant des choses que vous ne possédez pas. C'est un truc absolument extraordinaire, mais il faut être banquier, il faut être financier pour être capable d'inventer un truc pareil. Ce qui est sûr, c'est que ça représente 80% de l'ensemble des transactions financières, que ce sont les produits les plus spéculatifs. Bon, sauf que c'est aussi des produits qui sont possédés beaucoup par les grandes banques françaises, et en particulier la BNP Paribas, qui est particulièrement bien placée sur ce créneau-là. Et donc le gouvernement français, en bon commis voyageur des capitalistes et des banques françaises, eh bien, est intervenu pour faire diminuer les effets de cette taxe. Voilà, je voulais prendre ces deux exemples-là parce que il y a des moments, il faut dire qui fait quoi, parce que ce jeu entre l'Europe et les gouvernements, bon, il y a un moment c'est agaçant et c'est trop facile, c'est-à-dire ils se mettent d'accord entre eux pour décider des politiques d'austérité, et une fois qu'ils rentrent chez eux, ils disent c'est pas moi, c'est l'Europe. Bon, donc évidemment ça embrouille un petit peu les choses, et effectivement on ne peut pas dire, ce que dit Jacques Hyena, qui est la tête de liste, j'allais dire PCF, Front de Gauche, mais enfin surtout PCF, donc dans notre circonscription, refusons la mise sous tutelle de notre pays par l'Union européenne. Non, on pourrait dire refusons la mise sous tutelle de nos vies par les banquiers, la finance, le profit. On pourrait dire, ce qui est encore beaucoup plus joli, nos vies valent plus que leurs profits. Ce serait plus clair. Voilà. Donc, dans cette discussion-là, je voulais apporter une autre question qui revient aussi un petit peu sur la question de la sortie de l'euro. Et quelque chose qui nous apparaît à nous un peu comme une fausse bonne idée, et en tout cas quelque chose qui ne résout pas le problème. Parce qu'on constate que c'est tous les gouvernements des pays européens, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient de droite, qui pratiquent les politiques néolibérales. Et ce n'est pas le fait de revenir à des monnaies nationales qui les fera devenir soudainement je vais pas dire anticapitaliste, au moins un tout petit peu sociaux, antilibéraux, enfin un truc un peu plus cool quand même. Bon, c'est pas ça qui changera les choses, il suffit de regarder ce qui se passe en Angleterre. Bon, ça c'est une dimension. L'autre dimension, mais ça a déjà été dit par d'autres camarades, c'est que le capitalisme, il s'est mondialisé. L'international du capital, elle existe bel et bien. Voilà. Et que nous, on ne peut pas faire l'économie de combattre à cette échelle-là. D'autant que, et en particulier sur le terrain des questions de l'écologie, des questions de la crise climatique, les réponses, elles doivent forcément être internationales, elles doivent forcément être globales. Donc on ne fera pas l'économie de l'internationalisme. Et toute idée que ça irait mieux si on était tranquille chez nous est une idée à la fois fausse et dangereuse. Donc nous, oui, on dit il faut rompre absolument avec ces institutions de l'Union européenne qui ne sont pas réformables, mais il faut aussi donner des réponses anticapitalistes qui soient des réponses à l'échelle européenne. Alors je vais prendre un certain nombre d'exemples, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été traitées. Mais si on prend par exemple la question de la spéculation, la question de l'annulation de la dette, justement pour en finir avec la spéculation sur les finances publiques, bon, c'est une mesure qui doit être défendue à l'échelle européenne, qui doit faire tache d'huile. De la même façon, mesure indissociable, qui est la socialisation des banques dans un monopole public bancaire, qui sont vraiment les préconditions pour commencer à faire des choses qui soient, tant soit peu, au service des populations. Voilà. De la même façon, à l'inverse de la politique de privatisation et de destruction des services publics qui est menée avec acharnement à l'échelle de l'Union européenne, il faut une vraie politique d'extension, de défense, de généralisation de services publics à l'échelle européenne pour répondre aux besoins sociaux et aux besoins environnementaux. Et sur cette question de l'urgence sociale, une des pires choses que fait cette Union européenne, c'est évidemment la mise en concurrence des salariés. Bon, mais il n'y a pas d'autre réponse à cette mise en concurrence des salariés qui ne profitent qu'aux patrons, bon, que l'alignement des droits vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on défend l'idée d'un SMIC européen, c'est pour ça qu'on défend l'idée d'une protection sociale alignée sur les meilleurs systèmes. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Je voudrais prendre 30 secondes autour de cette question des travailleurs détachés, puisque la directive de 96 sur les travailleurs détachés dit tout va bien, c'est le salaire, les durées du travail, les congés payés du pays d'accueil qui s'appliquent. Ah, mais les droits sociaux, c'est les droits sociaux du pays d'origine. Ah ouais, puis c'est pas égal. Ah ouais, il y a des travailleurs qui sont payés moins cher à l'arrivée. Ah, et puis les patrons, ben, ils préfèrent prendre les travailleurs qui sont payés moins cher. Bon, et alors d'ailleurs, il y a une rediscussion autour de ça, et je ne résiste pas au plaisir, parce que quand même le commissaire en charge de l'emploi qui s'occupe de l'affaire, puisqu'ils doivent normalement rediscuter, ils sont en train de rediscuter de cette directive, et il parle de la directive sur les travailleurs détachés, il dit, mais cette directive est justement faite pour proposer des travailleurs bon marché. Vous n'allez tout de même pas tuer le bébé, dit le garçon qui est quand même assez lucide. Voilà. Donc, cette mise en concurrence, c'est ce qu'il y a de plus mortel, effectivement, pour les droits des salariés. Et jamais, c'est le repli nationaliste, national, qui est une réponse à ça. C'est toujours le combat commun pour tirer tous les droits vers le haut. Je prendrai pas beaucoup de temps, mais c'est tellement évident que sur le terrain de l'écologie, sur le terrain de la lutte contre le réchauffement climatique, les réponses, elles doivent être mondiales. Donc, à force, déjà, bon, il faut qu'il y ait des politiques à l'échelle continentale et qu'évidemment, ces questions de réduction massive des gaz à effet de serre, il faut mener des politiques qui soient coordonnées, mais ça, Sophie l'a dit, mais bon, juste un mot. La politique la plus coordonnée qui ait existé, c'est la PAC, hein, puisqu'elle existe, c'est quasiment celle qui existe depuis le début. Mais ça a été une machine fantastique à fabriquer cette agriculture industrielle productiviste qu'on combat, qui arrive au fait que une ferme toutes les 3 minutes qui disparaît en Europe. Donc on est capable de faire des politiques qui soient coordonnées pour aller dans le mauvais sens. Ça, ils en sont tout à fait capables. Nous, on oublie un peu trop que notre réponse, elle doit être d'avoir des politiques coordonnées pour aller dans notre sens. Bon. Nous, on veut aussi une Europe démocratique, une Europe de l'égalité des droits, une Europe qui soit un point d'appui pour tirer les droits, et en particulier les droits des femmes, vers le haut. Et là, l'Europe est aussi un champ important de cette bataille-là, hein, puisque tout ce que l'Europe compte de réactionnaires, c'est ligué pour empêcher de passer un rapport qui préconisait que l'avortement soit un droit européen. Et celui qui s'est le plus tapé sur le ventre de contentement quand le rapport a été rejeté, c'est Bruno Gollnisch. Donc ça donne bien qui sont nos ennemis et qui sont ceux qui sont à l'offensive. C'est les mêmes qui sont à l'offensive contre le droit au mariage pour tous, qui sont à l'offensive sur le terrain de l'avortement. Nous, on veut à l'inverse une Europe qui soit un point d'appui pour celles qui sont aujourd'hui menacées de perdre le droit à l'avortement charmant acquis, qui sont les femmes de l'État espagnol, mais aussi pour celles qui en sont privées, comme en Hollande, en Irlande, en Pologne ou à Malte. C'est une mauvaise nouvelle pour les Hollandaises, mais c'est moi qui fourchis. Cette Europe qui est si douce pour la liberté de circulation des capitaux, c'est une Europe forteresse, que là encore il y a des politiques extrêmement coordonnées, que partout la gestion concertée des flux migratoires, comme ils appellent ça, c'est des politiques de durcissement des lois anti-immigrés, que la fameuse immigration choisie, c'est les politiques de renvoi, que la honteuse directive du retour, c'est une directive qui vise à se débarrasser des étrangers. Bon, dans une situation dans laquelle y compris les politiques des grandes puissances, et en particulier des grandes puissances européennes, et à l'intérieur de ça, en particulier de la France, avec les guerres et les interventions militaires que la France mène en Afrique, sont responsables de situations qui font que les gens n'ont pas d'autre choix que de partir, de quitter le lieu où ils vivent, tout ça au péril de leur vie, hein, puisqu'on estime que c'est plus de 20 000 personnes qui ont trouvé la mort aux frontières de l'Europe dans les 25 dernières années, tout ça grâce à un dispositif militaire, à cette espèce d'armée qui est le dispositif Frontex, hein, pour empêcher ces hordes de pauvres affamés de venir nous assaillir. Nous, à l'inverse, on défend évidemment une Europe de la liberté de circulation, de l'égalité des droits avec le droit de vote, une lutte contre toutes les discriminations, et en particulier, parce que c'est le cas dans tous les pays d'Europe, de discrimination contre les Roms et contre les musulmans. Voilà. Cette Europe, c'est aussi une Europe de la répression. Et ça, ils sont capables de faire une Europe de la répression. Je prends deux exemples qui sont d'actualité brûlante, puisqu'il y en a un, c'était jeudi dernier, le 15, donc des arrestations massives de militants de ce qu'on appelle la Terre Summit. C'est un peu la suite des forums sociaux, hein, qui voulaient manifester à Bruxelles contre un sommet qui particulièrement discutait un peu autour des affaires de TAFTA. Et ben, ils ont purement et simplement fait des arrestations préventives de dangereux terroristes, hein, genre la porte-parole de Solidaires qui est Annick Coupé. Bon, ils ont quand même arrêté 182 personnes avant même la tenue du sommet. Et puis aujourd'hui même se déroule le procès de ceux qu'on appelle les notaves, c'est-à-dire ceux qui se battent contre un autre projet inutile imposé, donc la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Ils sont jugés dans des conditions, les conditions de l'antiterrorisme, hein, c'est-à-dire qu'ils sont interrogés. Ils sont pas dans la salle de leur procès, ils sont interrogés via des caméras enfermés dans leur cellule. Et je vous donne en mille, la Commission européenne est partie civile dans ce procès. Donc quand on parle d'Europe de la répression, c'est pas juste une image. Cette Europe, c'est aussi la guerre. J'ai parlé tout à l'heure des interventions militaires en Afrique. C'est aussi une Union européenne qui souffle sur les braises en Ukraine, dans lesquelles on est loin d'avoir une simplicité du genre on aurait les gentils démocrates soutenus par les puissances de l'Union européenne qui promettraient démocratie et opulence d'un côté, comme il est faux de dire que de l'autre, on aurait des antifascistes soutenus par Poutine. En Ukraine, c'est un des cas flagrants où, évidemment, la solution, elle ne viendra que de la mobilisation de ceux d'en bas, que de l'auto-organisation. Et c'est précisément ce danger de mobilisation de masse, ce danger d'organisation de ceux d'en bas qui a provoqué la réaction tant de l'Union européenne que de la Russie de Poutine. Donc c'est vrai que la réponse que nous on défend, c'est une réponse, ce qu'a dit Cassandra tout à l'heure, où on dit prenons nos affaires en main, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres solutions, qu'à l'échelle de l'Europe, fort heureusement, il y a un certain nombre de mobilisations dans lesquelles justement cette dimension de réappropriation, d'auto-organisation, d'auto-gestion de la lutte sont particulièrement présentes. C'est vrai, et je le dis parce que personne n'en cause, c'est vrai en Bosnie, à Tuzla en particulier, bon, avec un mouvement venu d'en bas de réappropriation absolument extraordinaire. Bon, et c'est vrai aussi dans l'État espagnol où de l'indignation contre la non-organisation ou la désorganisation de la riposte au plan d'austérité par le mouvement syndical, donc de ce mouvement des indignés, est né un vrai mouvement utile dans les quartiers, dans les villes, pour lutter contre les conséquences des politiques d'austérité, contre les expulsions, pour la défense des centres de santé. Et c'est ce mouvement-là qui est aussi capable de s'étreiter, de fabriquer collectivement de la politique. Et c'est le mouvement Podemos hein, qui porte le débat au moment de ces européennes dans l'État espagnol. Des coordinations et des liens dans l'ensemble de l'Europe, il y en a aussi. Alors, contraint et forcé dans la lutte contre l'extrême droite, parce que malheureusement, le danger de l'extrême droite, il est partout présent, un peu sous des formes différentes, mais partout présent. Et il y a un certain nombre de coordinations et de liens qui se font autour de ce combat-là. Donc, voilà. Et dans cette Europe-là, il y a toute une série de combats. Il y a un peu partout des grands projets inutiles parce que les capitalistes ne fourmillent de créativité pour construire des choses qui ne servent à rien quand elles ne sont pas en plus nuisibles et destructrices, hein, que ce soit pour nous Notre-Dame-des-Landes, qui est un petit peu le projet le plus emblématique de ça, en tout cas la lutte la plus emblématique du refus de ce monde-là, mais ailleurs ça va être la LGV de Lyon-Turin, ou ça va être des projets d'autoroute, des projets de grands stades, etc. Ces luttes-là, elles sont souvent d'emblée des luttes avec une forte dimension internationale, bon, avec beaucoup de liens internationaux, et c'est aussi des luttes qui portent en elles-mêmes, dans leur déroulement, le projet d'un autre mode de fonctionnement de la société, qui pose la question de ce qu'on doit produire, pourquoi, et qui essaye de porter un autre avenir, un autre monde possible, dans le sens de ce que disait Sophie, et dans le sens de ce que nous, on appelle l'écosocialisme, c'est-à-dire un projet de société qui soit à la fois démocratique, social, féministe et écologiste. Voilà, je vais juste finir et les européennes dans tout ça, parce qu'on pense que ce serait important d'avoir des députés européens anticapitalistes. Voilà, que ça servirait à quelque chose d'avoir des députés européens anticapitalistes. D'abord, la première chose qu'ils feraient, ce serait d'aller voter contre le TAFTA. Ça fait du bien, ça ferait plaisir. Voilà. Mais on sait que ça ne suffirait pas. Bon. Et donc, il serait aussi utile pour que cette mobilisation, par exemple, comme d'autres qui sont en train de se construire, elles aient des outils, elles aient des moyens pour se coordonner, pour créer des réseaux et pour amplifier, essayer de rattraper le retard que malheureusement le mouvement ouvrier, le mouvement social, le mouvement révolutionnaire, le retard que nous avons dans la construction de notre Europe par rapport à leur Union européenne dont nous ne voulons plus. Voilà, je dis juste une dernière chose pour tous ceux qui sont énervés contre la poste, la préfecture, le système, tout, voilà, parce qu'ils n'ont pas trouvé ni notre bulletin de vote, ni notre profession de foi, dans les enveloppes, vous avez raison de vous énerver, ils n'y sont pas parce que les élections, eh ben, c'est un sport de riches, voilà, et que nous, on n'avait pas les moyens d'avoir à la fois les bulletins de vote, les professions de foi envoyées et dans les bureaux de vote et de se présenter dans 5 circonscriptions. On a fait le choix de se présenter dans 5 circonscriptions, de pouvoir militer et porter ces idées-là dans 5 circonscriptions. Le prix à payer est de n'avoir des bulletins de vote que dans les bureaux de vote. Donc, vous les trouverez dans les bureaux de vote. Donc, tous ceux qui vous interrogent, vous pouvez leur dire ça. La profession de foi, il y en a là et elle est disponible sur Internet. C'est plus facile quand on est riche, fort et du côté du manche, mais c'est pas nous. Donc, on va essayer de compenser ça par... notre militantisme et tout le travail qu'on va continuer à faire pour convaincre autour de nous que bah voilà, c'est quand même utile de voter anticapitaliste et de voter pour les listes NPA. Merci.